Jacques-Olivier Boudon, professeur à la Sorbonne, a trop étudié les questions religieuses au début du XIXe siècle pour que l'on ne soit pas tenté de l'interroger sur cet aspect souvent négligé du bilan napoléonien.
Avec vous, Jacques-Olivier Boudon, c'est un des aspects les plus intéressants de l'Empire que nous allons aborder maintenant, celui de la religion et des questions religieuses. Après ce choc terrible de la Révolution française, il fallait un petit peu recoudre les morceaux. Napoléon est apparu comme un pacificateur, on peut dire ça ?
Il est apparu comme un pacificateur et il a été, il a joué là-dessus. Sa propagande va aller dans le sens de la pacification religieuse. Il a très bien compris, en fait, en 1799-1800, que pour pacifier le pays sur le plan civil, il fallait aussi le pacifier sur le plan religieux. C'est pourquoi il prend diverses mesures pour permettre aux prêtres de rentrer, par exemple, en France.
À l'époque, il y a quand même deux clergés. Il y a les constitutionnels et les réfractaires, ceux qui ont voté, qui ont prêté serment à la constitution civile du clergé, et puis les autres. C'est ça ?
Voilà, il y a deux églises. Il y a un schisme depuis 1791. Ces deux églises n'ont pas tout à fait le même poids en 1800. L'une, l'église réfractaire, est plus importante.
Mais ça, c'est un aspect qu'on ignore parfois ou qu'on néglige.
Oui, le clergé qui est parti en émigration massivement est revenu aussi massivement depuis la chute de Robespierre. Donc il est présent, il pratique un culte plus ou moins clandestin, mais il y a de nouveau des ordinations. Et c'est aussi une église qui a la légitimité d'avoir soutenu le pape pendant la décennie révolutionnaire.
Alors justement, le moins qu'on puisse dire, c'est que les rapports de Napoléon et du régime avec la papauté sont assez complexes.
Il a au départ réussi à s'entendre avec ce nouveau pape. Il s'abouche, comme il le dira lui-même, en juin 1800 avec le nouveau pape Pie VII, qui a la particularité de ne pas avoir condamné la Révolution, à la différence de son prédécesseur Pie VI, qui lui avait condamné les droits de l'homme comme contraire aux droits de Dieu. Donc l'accord est possible avec Pie VII, et cela conduit au concordat de 1801. Et puis, bien entendu, Pie VII accepte aussi, ce qui n'allait pas de soi, de venir couronner, de venir sacrer Napoléon à Paris.
Il fait le chemin lui-même.
C'est une première. On évoque toujours le sacre de Charlemagne, mais Charlemagne était allé à Rome. Donc il faut remonter encore plus loin pour avoir des équivalents. C'est une première, mais ensuite les relations vont se dégrader.
C'est le moins qu'on puisse dire. Ça ira jusqu'à la captivité de Fontainebleau.
Puisque ça commence par l'entrée dans des troupes françaises à Rome. La captivité sur place, si on peut dire, et puis ensuite le transfert du pape à Savonne, puis à Fontainebleau, où il terminera l'Empire.
Un mot sur la liberté de culte et sur les autres religions, en fait, en dehors de la religion catholique.
La liberté des cultes, c'est finalement la seule liberté qui soit véritablement respectée sous l'Empire. Napoléon y tient beaucoup, et il le redit d'ailleurs dans le serment qu'il prête au moment du sacre en 1804, ce qui va choquer le pape. Liberté religieuse, c'est-à-dire que les protestants ont un statut équivalent à celui des catholiques. Les juifs obtiennent aussi un statut qui est équivalent à celui des protestants et des catholiques, avec une organisation qui permet aux trois, voire aux quatre cultes de coexister dans la France napoléonienne.
Tout ça, quand même, mené de main de maître de la part de quelqu'un qui lui-même n'était pas foncièrement religieux. Merci infiniment, Jacques-Olivier Boudon.